Ok.
Je crois qu'il vaut mieux que tu le fasses toi-même, ce sera
plus. Ah oui. Bon, en tout cas, merci de l'invitation. Donc, John DeVos, je suis responsable de la thérapie cellulaire sur l'hôpital, donc un laboratoire où on produit des cellules pour les patients. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je fais aussi de la recherche sur les cellules souches pluripotentes et c'est pour ça que je me suis intéressé à une technologie récente qu'on est en train de mettre en place pour nos propres applications de recherche. Et ce dont je vais vous parler, c'est donc le système qui s'appelle CRISPR-Cas9, et je vais vous en parler, pas du tout dans mon domaine, même si je vais un tout petit peu l'évoquer, mais plutôt de manière générale. Donc, alors, à quoi ça sert? Pourquoi c'est vraiment révolutionnaire? Et puis surtout, en quoi ça peut nous concerner? Alors, peut-être pas nos générations, mais les générations futures. Voilà, je reconclurai sur l'arbre de l'évolution, justement. Je vais boucler entre cet arbre que vous voyez là au début, et je vais revenir à la fin là-dessus. Donc là, oui, on est vraiment très loin du salon que tu viens d'évoquer. On est vraiment sur de la recherche très robuste, c'est-à-dire qui a été reproduit et immédiatement introduit dans plein de laboratoires, c'est-à-dire ce qui est propre à la science, c'est-à-dire une observation qui est tellement solide et vérifiable que et bien décrite que de nombreuses autres personnes, alors ça ne peut pas se faire dans sa cuisine, hein, faut quand même avoir des laboratoires, mais que de très nombreux autres laboratoires dans le monde ont pu tout de suite reproduire ces résultats. Quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment fascinant. Parce qu'il y a vraiment aussi, là on rigole, parce qu'il y a la pseudo-science, mais aussi de la science qui n'est pas reproductible. Et pour moi, ça c'est presque pire, parce que ça a tout l'apparat de la science et ce n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de survendre ce qu'ils ont vu dans le laboratoire et qui n'est pas vraiment reproductible. Là, on parle de choses très solides. Hein. Alors, donc, le plan, ça va être, on va parler d'abord de l'ADN, ensuite, pourquoi le modifier, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de le modifier, puis comment le modifier, et c'est là évidemment qu'on va parler de ce système, parce que c'est plus qu'une enzyme, c'est un système, CRISPR-Cas9, et enfin, on va aller sur une application, parce qu'en fait, il y en a plein des applications, c'est immense, c'est infini. Et je vais me concentrer sur une application qui est tout simplement modifier l'être humain. Tout simplement. Et on verra que ça a quand même des conséquences potentielles. Alors, un rappel sur l'ADN, même s'il y en a qui sont très familiers avec cette notion. Donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. En fait, c'est le support de l'information dans notre génome. C'est tout simplement un alphabet à 4 lettres. Donc nous, on a un alphabet à 26 lettres, plus la ponctuation. Là, il y a juste 4 lettres sans ponctuation. Mais ça suffit à coder quelque chose aussi complexe qu'un être humain, qu'une plante ou qu'un animal. Donc les 4 lettres, c'est ATCG. Ça correspond à des sucres, entre guillemets, on a un point de vue chimique. C'est une double hélice, on va y revenir. Et si on écrit ce qui est codé, ça ressemble à ça. C'est les 4 lettres dans un ordre qui peut avoir l'air aléatoire. En réalité, ce n'est pas du tout aléatoire. Il y a des endroits du génome qui sont un peu aléatoires, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est parfaitement écrit, avec un code derrière. Comme nous, on a un code qui fait que les lettres qui sont assemblées font des mots, et ensemble des phrases. Là, il y a la même chose, il y a un code derrière ça. Alors juste quand même, parce qu'on est au cœur de l'ADN et comment le modifier, un rappel d'où ça vient finalement l'ADN. Alors, au départ, on ne connaissait pas l'ADN, mais notamment Mendel a compris qu'il y avait des lois de la génétique, c'est-à-dire comment l'information qui code pour un individu, que ce soit les petits pois de Mendel ou bien un être humain, est transmise d'une génération à l'autre. Donc ça remonte au 19e. Toujours au 19e, Friedrich Miescher découvre la nucléine, c'est-à-dire une molécule qui sera en fait l'ADN. Donc d'un point de vue chimique, on s'approche déjà à ce qui sera l'ADN, mais il ne sait pas encore à quoi ça sert. Donc c'est vraiment des découvertes complètement indépendantes. Un peu plus tard, en 1909, Wilhelm Johansson a créé le mot gène. On reviendra sur ce mot. Très important, en 1944, il y a un lien qui est formellement établi entre ADN et hérédité. Alors c'est dans la bactérie. C'est-à-dire ce que ces chercheurs Oswald Théodore Abry ont montré, c'est que si on prend de l'ADN d'une bactérie donnée, on peut transmettre des propriétés de cette bactérie à une autre bactérie, juste en transmettant l'ADN. Donc on commence à comprendre que l'ADN le supporte l'hérédité. Et alors évidemment, le papier majeur, c'est un papier dans la revue scientifique prestigieuse Nature, 1953, où Watson et Crick montrent la structure de l'ADN. Et ce que j'aime beaucoup dans ce papier, c'est la dernière phrase de l'article. Alors, c'est de l'anglais. Hein. Il ne nous a pas échappé que le fait que ce soit une double hélice parfaitement complémentaire, et dans les diapos qui vont venir, je vais juste vous rappeler ou vous montrer ce que ça veut dire, suggère qu'il y a des mécanismes de copiage de l'information génétique. Et évidemment, il faut bien comprendre que s'il y a un support de l'information, un des corollaires, c'est qu'il faut qu'on puisse transmettre cette information. Ça ne sert à rien d'avoir une information qui reste... imaginez que vous écrivez un document très important, très précieux, et que vous l'enterrez dans votre jardin, et qu'on n'entend plus jamais parler, ça n'a pas d'intérêt. L'information n'a d'intérêt que finalement si elle est transmise. Notamment l'ADN, l'information qui est dans l'ADN, l'intérêt c'est que ce soit transmis, alors évidemment entre individus, d'une génération à l'autre, mais également d'une cellule à l'autre, puisque, on y reviendra, mais nous sommes composés de 10 000 milliards de cellules, et chaque cellule a le même patrimoine génétique que sa voisine, que la première cellule qui nous a composés. Et donc, quand on a une cellule au départ, puis deux, puis quatre, à chaque fois, l'ADN est parfaitement copié. Et donc, le fait qu'ils aient montré que c'était une double hélice, ils ont compris tout de suite que ça voulait dire qu'il y avait là un système de copiage. Et après, il y a eu d'autres découvertes, et je vais m'arrêter là, par exemple, le code de l'ADN. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure que derrière toutes ces lettres qui ont l'air aléatoires, il y a au contraire un code. On reviendra là-dessus lorsqu'on parlera du gène. Donc double hélice, ça ressemble à ça. Encore une fois, ce n'est pas la vraie structure, c'est une représentation quand même stylisée, mais on comprend qu'il y a deux hélices qui tournent entre elles et qui sont complémentaires. Et alors le A est toujours complémentaire du T, ça veut dire que si vous avez le A, le jaune, d'un côté, vous avez toujours le vert, le T en face, et le G est complémentaire du C. Donc si vous avez un bleu, vous avez toujours un rouge en face. Vous voyez, il y a toujours cette complémentarité. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais un A avec un C, c'est toujours AT et CG. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça explique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le recopiage de l'ADN. Et donc si on débobine à un moment donné, alors évidemment ça ne se fait pas comme ça au hasard, c'est des systèmes enzymatiques dans le noyau de la cellule qui vont faire ce travail. Donc des enzymes sont capables de débobiner l'ADN et que chaque brin qui cette fois-ci se retrouve seul est copié. C'est-à-dire que si un A, ben, on met un T en face. Si un C, on copie, on met un G, etc. Et donc, vous avez le complémentaire qui est copié. Et donc, à la fin, on a deux ADN double brin qui sont identiques au brin initial. Donc, on a comme ça un système de copiage. Et ce système de copiage est redoutablement efficace puisqu'on a dans notre génome 3 milliards de caractères. Et en fait, on a deux copies, parce qu'il y a toujours la copie paternelle et maternelle, ce qui veut dire qu'on a 6 milliards de caractères, ce qui fait à peu près, alors c'est une référence un peu ancienne, mais 200 bottins téléphoniques parisiens. Donc il y a peut-être quand même un certain nombre qui savent ce que c'est un bottin téléphonique. Et un bottin téléphonique parisien, c'est épais, il y a beaucoup de caractères, donc il y en a 200. Et ça, c'est, on va y revenir, c'est compacté dans un noyau. Mais donc à chaque division cellulaire, quand une cellule donne deux cellules, il faut que ces 6 milliards de caractères, ces 200 bottins téléphoniques, qui créent tout petit, soient strictement recopiés. Et toute erreur pourrait être catastrophique. Donc ce système a été sélectionné par l'évolution il y a maintenant plus de 4 milliards d'années, sans doute dès le début de la vie, et c'est tellement robuste, c'est-à-dire c'est tellement efficace, c'est tellement facile à recopier sans erreur. Alors il peut y avoir des erreurs, hein. C'est pour ça que par rapport à l'ADN qui a été créé au début dans des organismes qui étaient même encore plus primitifs que des bactéries, on en est dérivé, c'est-à-dire que c'est tellement solide ce système, que ça a été conservé depuis le début où c'est apparu sur Terre jusqu'à maintenant. Et c'est tellement conservé et tellement efficace que tous les animaux et les plantes et les êtres vivants sur Terre partagent le même système de codage de l'ADN et en partie d'ailleurs un certain nombre d'enzymes qui permettent de débobiner l'ADN, le recopier et de le réparer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous, les parasites, les virus, les bactéries, les plantes, les champignons, les mouches, etc., on a tous le même ADN, c'est parce qu'il n'y a pas eu de meilleure proposition à aucun moment. Et donc, on a tous gardé ce même système depuis donc, des milliards d'années. Et donc, par contre, même si c'est redoutablement efficace et c'est recopié de manière très précise, il y a quand même parfois des erreurs. Et ces erreurs expliquent que de l'époque où on était encore des bactéries, c'est-à-dire que depuis le tout début, hein, il y a une chaîne sans discontinuité entre la première espèce vivante qui a donné, vous vous souvenez, j'avais mis l'arbre de vie là, sur ma diapo au départ, le premier être vivant qui a donné à la fois les êtres humains, mais à la fois les plantes, les parasites, les mouches, etc. Et bien depuis, il n'y a pas eu la moindre discontinuité. Ça veut dire qu'on est des mutants de cet animal initial. C'est par les mutations progressives, incrémentielles, petit à petit, qu'on arrive à... Donc il y a quand même quelques erreurs de temps en temps. Mais grosso modo, il y a très peu d'erreurs. On estime d'ailleurs que dans le recopiage entre deux générations de ces 6 milliards de caractères, il y a environ 30 erreurs, ce qui est très peu. Et donc cet ADN, ces 6 milliards de caractères, codés dans toutes les listes d'ADN, sont compactés dans le noyau. En fait, il faut bien voir le noyau est comme un coffre-fort dans lequel est mis à l'abri l'ADN, puisque de nouveau, comme c'est le support de l'information, il ne faut absolument pas qu'il soit endommagé par des réactions chimiques, par les rayons cosmiques, etc. Ça peut arriver encore une fois, mais en général, ça n'arrive pas. Et donc, c'est protégé, c'est dans un noyau. Si vous avez des cellules, et vous avez l'ADN qui est dans le noyau de cellules. Donc une molécule très stable, et par exemple, on a récupéré de l'ADN de mammouth ou même de l'ADN d'hommes préhistoriques, parce que même sur les os, s'il y a des bonnes conditions de conservation, on peut retrouver des fragments d'ADN. Donc une molécule très robuste. Et aussi, un autre point important, un système, et ça va nous concerner avec CRISPR-Cas9, de réparation. C'est-à-dire que vraiment le tabou pour la cellule, c'est d'avoir un ADN cassé. Et donc, dès qu'il y a une cassure, parce que ça peut quand même arriver, il peut y avoir une réaction chimique qui a comme conséquence que l'ADN a ponctuellement été abîmé, ne serait-ce que par exemple quand on va au soleil. Si on va au soleil sur la plage, c'est des millions de cassures d'ADN par minute. C'est absolument considérable. C'est l'holocauste pour nos cellules de la peau. Mais c'est réparé derrière. Il y a des systèmes de réparation extrêmement actifs, puisque la cellule, surtout, elle ne veut aucune cassure de l'ADN. Et ça, on va s'en servir justement avec CRISPR-Cas9. Et donc, juste un petit mot sur le code. Donc, l'ADN est le code qui permet d'aboutir à des protéines. Alors, par un intermédiaire que je n'ai pas mis là, mais finalement, il aurait fallu que je le mette, un intermédiaire qui s'appelle l'ARN, qui est un autre acide nucléique. Donc, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Et donc, via cet intermédiaire, on arrive à des protéines, et c'est vraiment les protéines qui nous constituent pour l'essentiel, avec des lipides, avec des sucres, mais un gros tas de protéines. Et donc, on a environ 20 000 gènes, c'est-à-dire la séquence de cette longue molécule d'ADN qui code vraiment pour les protéines. Ce n'est qu'une petite partie de notre génome qui code pour les protéines, le reste, c'est des zones de régulation. Et donc, on a dans notre génome des gènes qui codent pour des protéines. Oui.
Est-ce que tu dirais un petit mot de l'ADN mitochondrial
Alors, je n'avais pas prévu, mais on peut... Alors, parce qu'à ce moment-là, il faut que je parle de mitochondries. Non, les mitochondries sont des petits organelles qui ont leur propre ADN, qui fournissent l'énergie. Et on pense que c'est à un moment donné, les cellules eucaryotes, donc les cellules un peu plus développées, ont accaparé des petites bactéries qui étaient capables de faire de l'énergie. Et donc, dans nos cellules, on a des mitochondries dans lesquelles il y a leur propre ADN, et qui sont indispensables, c'est elles qui fournissent l'énergie. Et donc, le génome, donc c'est un ensemble de 20 000 gènes, alors excusez-moi pour un petit peu d'anglais, là, mais finalement, on peut voir ça comme un bac de briques de Lego à disposition. Et donc, chaque cellule du corps humain a le même bac de briques de Lego. Et évidemment, avec des briques de Lego, on peut faire des choses très différentes. On peut faire, par exemple, des maisons très différentes. Ce qui explique que chaque cellule, même si elle a le même patrimoine génétique, peut être soit de la peau, peut être des cellules complètement transparentes au niveau de la cornée, puisque la cornée est faite de cellules totalement transparentes. Peut être du sang, peut être des neurones, etc. Et ça aussi, c'est l'idée que chaque cellule du corps humain, aussi différente que soit-elle, avec de très rares exceptions, notamment les ovules, les spermatozoïdes, où il n'y a que la moitié du génome, mais à part ces exceptions, il n'y a quasiment pas d'autres, chaque cellule est vraiment identique d'un point de vue ADN. C'est-à-dire que chaque cellule a le même contenu ADN. Pourtant, il y a des cellules très différentes, encore une fois, entre la peau, le foie, le muscle. Et donc, on ne savait pas trop, jusqu'aux années 50, si ces différences d'aspect cellulaire et de fonction étaient dues à ce que les mêmes briques soient utilisées différemment, ou au cours de la spécialisation des cellules, elles perdent l'ADN qui n'était pas nécessaire, et qu'à la fin, la cellule intestinale, elle a gardé que les gènes qui codent pour ce qu'il faut pour faire de l'intestin, les cellules de la peau, que ce qu'il faut pour faire de la peau. Et en fait, il a fallu John Gordon, fin des années 50, pour qu'il fasse une expérience où il prenait une cellule de l'intestin, il le fusionnait avec un œuf de, intestin de grenouille, et cet œuf était capable de reprogrammer la cellule intestinale en têtard. Et donc c'était bien la preuve que d'une cellule intestinale, on pouvait obtenir un têtard, c'est-à-dire tous les types cellulaires. Et donc il a eu le prix Nobel pour ça, c'était la démonstration définitive que chaque cellule a le patrimoine génétique qui code pour tout. C'est-à-dire finalement, quelque part, c'est comme si chaque maison d'une grande ville avait le plan de la ville complète. C'est un petit peu inutile, mais en même temps c'est le mode de fonctionnement. Et ça veut quand même bien dire que on est 10 000 milliards de cellules, donc entre la cellule initiale, lorsque le spermatozoïde a rencontré l'ovule, jusqu'à ce qu'on ait soit 10 000 milliards de cellules, il y a un nombre incalculable de fois où tout ça a été recopié, et de manière, en général, sans faute, ou quasiment sans faute. Amusez-vous à recopier 200 bottins téléphoniques, une fois. Et là, c'est des dizaines, des centaines de fois. Voilà, donc 6 milliards de paires de bases, c'est dans le noyau, au centre. Et donc oui, si on mettait ce noyau, qui est quand même tout petit, ça fait quelques microns, quelques millionièmes de mètres, si on mettait ça à l'échelle d'une salle de classe, on aurait 850 km d'un brin qui fait un millimètre de large, quoi. Et ça, c'est bien organisé, parce que vous comprenez qu'il y a des enjeux de nœuds, on peut se faire des nœuds dans l'ADN, et tout est organisé, plié comme il faut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nœuds. Donc voilà pour l'ADN. Oui, alors, je vous propose que les questions qui sont un peu philosophiques ou plus générales, on les laisse pour la fin. Par contre, effectivement, si vous avez des questions vraiment techniques, parce que je peux aller trop vite, parce que pour moi, c'est assez évident, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, CRISPR-Cas9, c'est une technologie tout simplement pour modifier l'ADN. Alors pourquoi, avant d'arriver sur la technologie, pourquoi le modifier? Une des raisons, alors il y en a plein, on verra qu'il y a plein d'applications, encore une fois, ce n'est pas mon propos d'aller sur toutes les applications possibles de CRISPR-Cas9, mais une des applications évidentes dans le domaine de la médecine, c'est qu'il y a malheureusement des maladies génétiques. Les maladies génétiques, alors par exemple l'hémophilie, c'est si un gène, ça suffit, alors parfois c'est des combinaisons de gènes, mais on va faire les plus simples, un gène qui est cassé, c'est-à-dire qu'il y a eu une mutation et qui fait que le code a été endommagé, et donc la protéine qui normalement doit être produite n'est pas produite. Ou alors elle est mal produite et ça ne fonctionne pas. Donc dans l'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation, la protéine, alors l'hémophilie A, c'est la protéine 8, le facteur 8, n'est pas produit, et en l'absence de ce facteur, eh bien le sang n'arrive pas à coaguler. Et donc c'est surtout des garçons, ce qui est porté par le X, n'importe, c'est surtout les garçons, et qui vont saigner. Alors il y a différents degrés de gravité, mais enfin certains garçons vont saigner quasiment en permanence. Il suffit qu'ils marchent pour qu'ils aient des saignements dans le genou, par exemple. Ne parlons pas que s'ils se coupent, c'est catastrophique pour eux. Alors, depuis, on a pu synthétiser le facteur 8, et on peut leur injecter le facteur 8. Et donc on a pu comme ça soigner les hémophiles. Mais c'est quand même surtout les hémophiles graves, des gens qui se font un nombre de piqûres incalculables et qui malgré tout saignent quelques fois dans l'année, même si leur vie n'est plus vraiment mise en danger par rapport à avant qu'on sache fabriquer le facteur 8. Donc voilà un exemple de maladie génétique. Et alors pourquoi l'intérêt de modifier l'ADN, c'est tout simplement venir réparer le gène qui ne marche pas, ou alors venir ajouter un gène qui fonctionne là où le gène initial ne fonctionne pas. Faire de la thérapie génique, par exemple. Voilà une des applications possibles de la modification de l'ADN. Faire de la thérapie génique pour modifier un organe, ou en l'occurrence là, l'exemple que je viens de vous citer, le sang. Et là, j'avais mis le poumon parce qu'on peut aussi imaginer de traiter, soigner comme ça par thérapie génique, la mucoviscidose. Mucoviscidose qui est une maladie terrible du poumon, où les enfants qui sont atteints de cette maladie génétique font un mucus trop épais. Et il suffit de ça pour que, en fait, ça bouche les bronches, il y ait des infections bactériennes répétées, et ça finit par détruire complètement le poumon.
Qu'est-ce que c'est qui casse le gène?
Donc, pour les maladies génétiques, c'est à la naissance, parce qu'alors il y a aussi des maladies génétiques qui apparaissent après, et en fait c'est souvent des cancers, parce que quelque part le cancer, c'est l'ADN qui a été cassé, mais après. Par exemple, quand on s'expose au soleil, on joue à la loterie, parce que sur les millions de cassures, si on n'a pas de chance, il y en a une qui va faire que la cellule de peau, par exemple un mélanocyte, va se mettre à proliférer. Donc les causes de cassures peuvent être les rayons ultraviolets, ça peut être une réaction chimique en permanence, et donc ça arrive tous les jours que l'ADN se casse et est réparé derrière. Ça peut être les rayons ionisants après une bombe atomique, évidemment c'est pas quelque chose auquel on est confronté, mais voilà une cause possible. Ça peut être des rayons cosmiques, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est traversé de rayons, donc on ne s'aperçoit pas du tout, hein, mais qui peuvent, par manque de chance, endommager une cellule. En général, c'est réparé derrière. Il peut y avoir des produits qu'on peut ingérer, alors le tabac aussi, par exemple, hein, des produits chimiques extérieurs. Alors l'hémophilie, ça c'est plutôt le hasard, et c'est les gamètes, c'est-à-dire les ovules ou les spermatozoïdes, qui ont été endommagés. Alors pour l'hémophilie, c'est porté par le X, et en général, c'est la mère qui est porteuse du gène. Elle ne le sait pas, ou alors elle le sait lorsqu'il y a déjà eu un enfant malade, un garçon malade. Mais donc...
Peut-être qu'il faut préciser là que comme on a deux copies de chaque gène, bien souvent, quand on a une copie qui est active, qui est normale, la copie mutée, on la porte de génération en génération sans s'en apercevoir.
Ouais, ouais.
Et l'hémophilie, on peut porter une mutation sans le savoir.
Donc à un moment donné, il y a eu la mutation, tout à fait, merci. Il y a eu une mutation par un des phénomènes que je viens de vous décrire, mais souvent c'est vraiment, on ne saura jamais pourquoi. Hein, ça peut être vraiment la vie tout à fait normale et quotidienne qui provoque une mutation. La plupart des cellules arrivent à le réparer, ou même s'il y a une erreur de réparation, ça n'a pas de conséquence. Par exemple, si une cellule de la peau a réparé après un bain de soleil et a mal réparé, si ça n'a pas touché un gène qui fait proliférer les cellules ou comme ces cellules-là ne vont pas transmettre d'informations aux générations suivantes, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça touche aux gamètes, les ovules ou spermatozoïdes, et que c'est transmis à un enfant, cette mutation, après, soit elle s'exprime tout de suite, dans le cas de maladies dominantes, soit si c'est l'hémophilie chez un garçon, soit ça ne s'exprime pas, parce qu'on a l'autre copie qui est normale. Encore une fois, on a deux génomes, le parental et le maternel. Par contre, et ça c'est l'exemple de la mucoviscidose, c'est une maladie qui est portée pas par le X, par un des autres chromosomes, on a en tout 23 paires de chromosomes. Et donc souvent, le cas de figure, c'est les deux parents sont porteurs d'un allèle, la mucoviscidose mutée, donc ils ont à chaque fois deux gènes qui codent pour cette protéine qui s'appelle CFTR. Donc un est muté, l'autre fonctionne, donc les parents sont normaux. Pareil, de ce côté-là. Par contre, ils ont une chance sur quatre que les deux mutés se mettent ensemble et donnent un enfant. Et à ce moment-là, l'enfant est malade parce qu'il n'y a aucun gène normal. Il n'y a pas de protéine normale. Donc, si on pouvait modifier l'ADN, on pourrait corriger les maladies génétiques. Une autre application possible, c'est modifier le génome. Après, il y a plein d'autres applications en agronomie. Et puis, je reviendrai un instant sur... la lutte contre certains vecteurs. Alors, modifier l'ADN, donc il y a un nombre incalculable d'applications. Là, je ne fais qu'effleurer ces possibilités. Mais comment le modifier? Alors, un des principes, et c'est le principe initial de CRISPR-Cas9, c'est que pour réparer l'ADN, paradoxalement, il faut le casser. Parce que quand l'ADN est cassé, immédiatement, la cellule met en œuvre des systèmes très robustes, très efficaces, très rapides pour réparer l'ADN. Encore une fois, elle ne supporte pas l'idée d'avoir de l'ADN cassé. Et donc, ça va tout de suite réparé. Alors, par contre, soit c'est réparé à la perfection, il y a différents systèmes qui le permettent, soit, si elle n'y arrive pas, il peut y avoir des erreurs de réparation. Je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais et on peut utiliser ces systèmes de réparation pour orienter la réparation dans un sens qui nous intéresse. Mais finalement... si on peut casser l'ADN, on a en grande partie fait un grand pas pour la modification de l'ADN. Alors, historiquement, alors, dès les années 70, donc encore une fois, la découverte de l'ADN, c'est les années 50, puis on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Au niveau des années 70, on commence à vraiment comprendre les enzymes qu'on appelle les enzymes de restriction. Et si on purifie de l'ADN, en laboratoire, on arrive à casser l'ADN, à le réparer, à modifier l'ADN. Donc dès les années 70, on commence à modifier l'ADN, mais en laboratoire, c'est-à-dire après l'avoir purifié. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on aimerait faire corriger des cellules qui sont malades génétiquement, elles sont porteuses d'un gène malade, on aimerait les corriger. Donc on ne peut pas modifier l'ADN après l'avoir sorti des cellules, parce que les cellules, si on sort l'ADN, les cellules sont mortes. Donc on veut pouvoir modifier l'ADN dans le coffre-fort, dans le noyau, au sein de la cellule. Alors soit on attend une cassure spontanée, et en fait pendant longtemps c'est ce qu'on a fait dans les années 80, c'est ce qu'on a fait. Alors c'est une technologie qu'on appelle la recombinaison homologue, mais on attendait une cassure spontanée et on en profitait à ce moment-là pour que la réparation aille dans le sens qu'on souhaite. Sauf que ça marchait pour les cellules en culture, c'est un événement très rare, 1 sur 1 million, l'ordre de grandeur. Et en laboratoire, c'est trouver la cellule qui a été réparée dans le sens qu'on voulait, c'était difficile, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'était faisable. Il y avait des techniques qui permettaient de le faire, notamment en mettant des gènes de sélection. Mais ça ne s'applique pas à la thérapie génique. On ne veut pas, si on veut réparer quelqu'un, réparer qu'un millionième de ses cellules. On sent bien qu'on ne va pas être efficace. Si on répare un millionième de quelqu'un, on veut réparer, peut-être pas à 100%, mais au moins quelques dizaines de pourcents. Après, un autre progrès considérable en thérapie génique, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des succès en thérapie génique, c'est l'utilisation paradoxalement d'un de nos meilleurs ennemis, les virus. Tout simplement parce que les virus, ce sont des organismes qui sont spécialisés dans l'introduction d'acides nucléiques, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, qui sont leur patrimoine génétique, leur information, dans les cellules. Et même certains de ces virus sont spécialisés dans l'injection de leur patrimoine génétique directement dans le noyau d'une cellule, voire même de l'intégration de leur patrimoine dans le patrimoine génétique de la cellule humaine. C'est le cas du HIV. Le virus du HIV, le virus du sida, va introduire son patrimoine génétique dans l'ADN d'une cellule. Et il est malin parce qu'en faisant ça, il sait que chaque fois que la cellule va se dupliquer, va se diviser, et bien le patrimoine génétique du virus se dupliquera en même temps. Et que de cette façon, il est aussi vraiment à l'abri, dans un coffre-fort, à l'abri du système immunitaire. Et bien on peut utiliser notamment le HIV et d'autres rétrovirus, là aussi je ne peux pas aller dans le détail, pour les modifier, pour qu'elles ne soient plus pathogènes, parce qu'évidemment on ne peut pas provoquer le sida chez quelqu'un, mais c'est assez simple, il suffit d'éviter que le virus se multiplie. Parce que qu'est-ce qui est pathogène dans un virus? C'est si un virus rentre dans une cellule, que ce virus se multiplie, une centaine, des centaines de copies, fasse éclater les cellules, et que chacune de ces centaines de copies aille infecter des centaines de cellules, qui elles-mêmes vont faire une centaine ou plusieurs centaines de copies, les cellules vont éclater, etc. Et cet effet d'emballement, cette expansion exponentielle des virus, explique que quand on a la grippe, c'est tout notre arbre bronchique qui est endommagé, qui explique la grosse fièvre qu'on a, parce que c'est à partir de quelques copies de virus, il y en a des millions, des milliards qui sont en train de proliférer et d'abîmer les cellules de votre arbre bronchique. Donc, on peut éviter qu'il prolifère, et à ce moment-là, le virus est utilisable pour venir intégrer une copie dans une cellule. C'est ce qu'on a fait, et on a comme ça réparé des enfants qui avaient un défaut très profond du système immunitaire, qui étaient absolument incapables de se protéger des virus, des parasites, des bactéries, et qui étaient obligés de vivre dans des bulles. C'est pour ça qu'on les appelle les bébés bulles. Donc très rapidement après la naissance, on s'apercevait qu'ils étaient victimes d'infections. On était obligés de les confiner dans des bulles, c'est-à-dire que même les parents ne pouvaient caresser leur enfant qu'à travers des gants, parce que un parent n'est pas stérile, hein. Donc les bébés étaient dans des confinements stériles, mais malgré ce, ils vivaient peu de temps, parce que dans l'espace des quelques mois entre la naissance et le moment où on s'aperçoit de la maladie, ils avaient acquis un certain nombre de virus qui continuaient à vivre en eux. Et donc, on connaissait la cause de cette maladie des bébés bulles, on sait que c'était un gène qui était endommagé, on a mis ce gène sauvage, normal, dans un virus HIV qui a été modifié pour qu'il ne soit pas pathogène. On a appliqué ça à ces cellules sanguines et on a pu comme ça faire que le système immunitaire s'est remis à fonctionner. Et les bébés bulles sont sortis de leur bulle et sont allés à l'école et vivent une vie normale.
Donc,
Alors, ça dépend parce qu'il y a d'autres causes. Alors, je pense qu'il y a, c'est pas un domaine que je connais très bien, mais il y a plein de causes. Donc, pour le moment, on a résolu certaines causes, en particulier le X-SKID qui est lié à une mutation sur un récepteur particulier. Et il y a d'autres mutations pour lesquelles on n'a pas forcément la construit tout ça. Parce que construire un HIV modifié qui comporte le gène sauvage, c'est un travail de titan qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, on n'a pas pu en produire pour toutes les maladies de ce type-là. Un autre succès récent, c'est l'hémophilia, justement. La semaine dernière, il y avait encore un papier dans une autre revue prestigieuse, le New England Journal of Medicine, avec des patients, justement, qui étaient obligés de s'injecter des facteurs anti-hémophiliques A régulièrement, toute l'année, et qui, malgré tout, saignaient encore de temps en temps. On leur a fait une injection d'un virus, en l'occurrence un virus AAV, c'est un autre virus, mais pareil, modifié pour qu'il ne soit pas pathogène, pour qu'il porte le gène qui code pour le facteur anti-hémophilique A, une injection intraveineuse. Ils n'ont plus eu d'injection pendant une année qu'a suivi l'étude. Alors, au lieu de 150 injections de facteurs, une seule injection. Donc, on est en train d'aller vers des succès de thérapie génique, mais qui utilisent des virus. Et là, il y a un gros mais, parce que c'est quand même imparfait. C'est-à-dire que le virus, il va venir s'intégrer n'importe où dans le génome. Il peut potentiellement endommager... En venant s'intégrer n'importe où, il peut endommager un autre gène. Donc, ce n'est pas parfait. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, c'est une réponse à un certain nombre de maladies génétiques, avec des succès cliniques qui commencent à s'accumuler. Je pense qu'on est, on a au moins dépassé une dizaine de succès cliniques et on commence même à commercialiser des thérapies géniques. Bientôt, il va y avoir aussi les maladies de l'hémoglobine qui vont être corrigées. Donc, ça avance très vite. Mais c'est imparfait parce que le virus, on peut pas le, il ne répare pas vraiment l'ADN. Il va venir s'intégrer au hasard, apporter le gène réparateur, mais il ne réécrit pas le génome. C'est là qu'arrive CRISPR-Cas9. Et donc, CRISPR-Cas9, c'est issu de la bactérie, paradoxalement. Et c'est quoi ce système? Alors, c'est un système qui est composé d'une enzyme, c'est ce que vous voyez en bleu. Elle s'appelle Cas9. Alors, Cas, ça n'a rien à voir avec le mot cassé, mais finalement, d'un point de vue mnémotechnique, ça tient bien la route, puisque ça va, c'est l'enzyme qui va casser l'ADN. Cas9. Et elle est chargée d'emblée avec un guide RNA, donc je vous ai dit, ou ARN. C'est une diapo en anglais, donc ARN en français. C'est un acide nucléique qui est très proche de l'ADN, et donc la qui a la même propriété que l'ADN, c'est-à-dire que c'est capable... Alors ici, vous avez une double hélice d'ADN, vous l'avez reconnu, et qui est capable de venir, Cas9 et le guide, débobiner l'ADN, et s'il y a une parfaite correspondance entre la séquence ici du guide, enfin, cette partie-là du guide, et l'ADN, s'il y a une parfaite correspondance, comme le système d'appareillement de la double hélice que je vous ai évoqué en début, c'est-à-dire que s'il y a un A d'un côté et un T de l'autre, etc., s'il y a une parfaite correspondance, eh bien le guide vient se fixer à l'ADN et amène la Cas9 à cet endroit-là. Et si c'est le cas, donc si le guide a bien trouvé la bonne séquence, quelque part dans le génome, la Cas9 vient se fixer et elle va couper. En fait, elle va couper ici, vous voyez la coupure sur le bord. Et ça, c'est énorme. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment moyen d'aller où on voulait dans le génome. Il y avait quelques techniques qui utilisaient des protéines pour aller se localiser où on voulait dans le génome et qui étaient extrêmement onéreuses, très difficiles à mettre en œuvre. Par contre, là, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est qu'il suffit d'écrire, finalement, de synthétiser une molécule ARN qui s'appelle le guide. Et ça, ça coûte quelques dizaines d'euros. C'est quelque chose qui est très facile à obtenir. Il y a des laboratoires qui sont spécialisés pour la séquence de petits ARN comme ça. Donc, vous faites un bon de commande. Si vous voulez vous repérer dans le génome l'endroit que vous voulez cibler, vous commandez sur Internet la séquence, vous recevez le petit flacon. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'après, il va falloir aussi qu'il y ait Cas9 dans votre cellule. Mais il y a des moyens pour le faire. Et donc, si Cas9, la protéine Cas9 est dans la cellule, plus le guide, eh bien, ça va couper. Et ici, j'ai une petite vidéo. Bon, c'est pas... Où est ma souris? Elle a...
Il y a du son? Tu veux du son?
Non, il n'y a pas de son. C'est moi qui vais faire le son. Donc vous avez Cas9 qui est en bleu. Vous avez le guide, là l'ADN. Ici vous devinez le guide en rouge qui est en train de débobiner l'ADN et qui se met à la place d'une des deux. Et qui a coupé. Donc, vous voyez, le principe, c'est ça vient s'apparier à la donc là où il y a de l'ADN. Et après, ça va se réparer. Plus ou moins, alors c'est voilà, on va pouvoir diriger la réparation. Là, il y a une réparation qui s'est faite de manière imparfaite. Vous avez trois bases qui ne sont pas celles qu'il y avait au départ. Mais voilà le principe. C'est-à-dire que vous avez la double hélice d'ADN. Le guide vient, grâce aussi à la Cas9, les séparer. Le guide se met à la place, il vérifie qu'il y a bien la bonne complémentarité, qu'on est au bon endroit, et à ce moment-là, ça va couper. Et donc, oui, s'il y a une cassure, on peut aussi mettre en face des morceaux d'ADN qu'on voudrait qu'ils viennent remplacer ce qui a été cassé, et c'est comme ça qu'on peut guider la réparation. Alors, juste un mot sur d'où ça vient. C'est quand même aussi une jolie leçon de science. Finalement, c'est le système immunitaire des bactéries. On ne pensait pas du tout qu'il y avait un système immunitaire dans les bactéries. On avait découvert le système immunitaire chez les mammifères, et notamment l'être humain, y compris chez les poissons, le requin notamment. On avait découvert un système immunitaire plus primitif dans la drosophile, et c'est un Français, Jacques Hoffmann, qui a eu un prix Nobel pour ça, parce qu'il a découvert le système immunitaire de la drosophile, et après on s'est aperçu que une partie de ce système immunitaire est conservée dans l'être humain. C'est un système immunitaire assez primitif, qui n'a pas de mémoire, mais dont notre corps humain se sert tous les jours. C'est-à-dire, dès qu'il reconnaît quelque chose qui ressemble à une bactérie, il attaque. C'est pas le système qui a une mémoire, c'est celui qu'on utilise avec un vaccin. Mais donc, il y a un système immunitaire chez les insectes. Pardon. J'ai dit bactérie, chez les insectes, hein, la drosophile. Oui, parce que peut-être vous ne savez pas ce que c'est la drosophile. Petite mouche de vinaigre. Et donc, la bactérie, ça a été vraiment une découverte. C'est une découverte assez récente. Et donc, il faut savoir que la bactérie, elle est attaquée. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais elle est attaquée par des virus. Et par exemple, dans votre tube digestif, vous avez plein de bactéries, ça vous le savez, mais vous avez aussi plein de virus. Mais des virus qui ne sont absolument pas dangereux pour nous. Quand on a une gastroentérite, c'est un virus dangereux pour nous, mais c'est l'exception qui confirme la règle. La plupart des virus qui sont dans le tube digestif, ils sont même presque plus nombreux en nombre que les bactéries, c'est des phages. Et ici, ce que vous voyez là, le petit martien en vert, c'est un phage qui est en train de s'attaquer à une bactérie. Donc vous imaginez la bactérie en bas, c'est la paroi bactérienne. Le phage est en train d'injecter son patrimoine génétique, puisque le principe d'un virus, il injecte son patrimoine génétique, ça peut être de l'ADN. Et ce patrimoine génétique, cette petite séquence d'ADN, va être recopiée. Donc il va utiliser, va parasiter la bactérie pour que la bactérie recopie ce patrimoine génétique, produit les protéines qui vont servir à faire reconstruire le petit martien, là, c'est-à-dire les petits bras et la capside, c'est-à-dire l'enveloppe, de façon à ce que quand la bactérie éclate, elle libère plein, quelques dizaines ou quelques centaines de phages qui vont eux-mêmes attaquer d'autres bactéries. Et donc, si jamais la bactérie, alors qu'un certain nombre de bactéries ont un système qui permet de mémoriser les phages qui les ont attaqués dans le passé, évidemment si elles ont survécu, ça a un intérêt. Et alors elles le mémorisent en le mettant, en coupant un petit morceau du phage et en le mettant en stock dans le patrimoine génétique de la bactérie. Donc la bactérie, alors pas toutes, hein, mais un certain nombre de bactéries, ont un système qui permet de prendre au hasard dans le phage une petite séquence, et de l'intégrer dans son génome, de le mettre avec un petit espace, ici, petit espace blanc. Puis, si jamais il y a un autre phage vert un peu plus tard qui arrive et qu'elle survit, eh bien, elle va intégrer le patrimoine génétique du deuxième phage, etc., etc. Et d'ailleurs, parce que je crois que je n'ai pas mis la signification du CRISPR, CRISPR, c'est Regularly Interspersed, le C, c'est quoi le C? J'ai pas mis, hein, parce que... Non, clustered. C'est clustered, donc c'est des clusters, c'est des regroupements. Regularly Interspersed, c'est-à-dire espacé de manière régulière. Et, parce qu'au départ, en fait, ça a été décrit, CRISPR, ça a été décrit, alors qu'on savait pas du tout à quoi ça servait. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui analysaient des bactéries et ils trouvaient des séquences variables espacé très régulièrement, avec toujours le même spacer, toujours la même séquence blanche. Donc, clustered, regularly interspaced, CRISPR, et puis la fin, je ne sais plus.
Palindromique.
Palindromique, tout à fait. Parce que c'est un palindrome. Et le R, je ne sais plus. De toute façon...
Ouais.
Et alors, et donc je reviendrai juste un peu après sur l'histoire, mais c'est quand même une belle histoire. Mais au départ, on a vraiment juste décrit dans l'ADN des bactéries ces systèmes réguliers, répétés. Puis après, on a compris que le 1, le 2, le 3, c'était des séquences de phages. Et là, on a commencé à se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des séquences de phages régulièrement mis en banque dans des bactéries? Ah ben, c'était parce que ça lui permet de mémoriser les attaques passées. Alors, à quoi ça lui sert de mémoriser ça? Eh bien, parce qu'en permanence, elle va synthétiser les ARN qui sont, vous l'avez compris, des ARN guides, à base de ces différentes séquences qu'elle a mémorisées. Et elle synthétise en même temps des cases, il y en a plusieurs, mais dont la case 9, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, s'il y a le guide et la case 9, et si ça trouve un patrimoine génétique qui ressemble, donc s'il y avait de nouveau un phage ici qui injecte son patrimoine génétique dans la bactérie, immédiatement le guide avec la casse trouve l'ADN, le coupe, le casse. À partir du moment où c'est cassé, le phage n'est pas capable de se dupliquer. Donc la cellule se défend, la bactérie se défend comme ça, contre les phages, en mémorisant les séquences. Et donc finalement, c'est ça qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit de synthétiser le guide, de faire exprimer la casse 9, c'est-à-dire qu'on a tout simplifié, plus plein de protéines, mais une seule protéine, le guide, et on peut casser l'ADN qu'on souhaite, et surtout à l'endroit où on veut dans notre génome. Donc finalement, CRISPR-Cas9, certains l'ont appelé la chirurgie du gène, c'est-à-dire que c'est un système de ciseaux pour casser l'ADN, mais très précis, vraiment n'importe, à la base près où on veut dans le génome. Bon, après, il y a des petits problèmes techniques, parfois ça coupe aussi à des endroits qu'on n'a pas prévus, qui sont proches, mais tout ça, c'est des systèmes qui sont en train d'être améliorés très rapidement. Alors, le pourcentage de réparation, ça dépend vraiment ce qu'on veut faire, mais ça peut aller de quelques pourcents jusqu'à quelques dizaines de pourcents de réparation. En tout cas, nettement supérieur à 1 sur 1 millionnaire. Hein, on a vraiment changé complètement d'échelle. Je vous rappelle, tout à l'heure, on attendait que ça se fasse par le hasard. Là, on est vraiment sur quelque chose où on est très proactif. Donc, plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents d'efficacité. Et surtout, c'est aussi très peu onéreux, très peu onéreux. Parce que le rétrovirus dont je vous parlais tout à l'heure pour faire la thérapie génique, c'est ce que je vous disais, fabriquer un vecteur donné pour soigner une maladie génétique donnée, ça va coûter un argent immense. Et dès qu'on veut s'adresser à une autre maladie, il va falloir tout recommencer. Ça va de nouveau coûter un argent immense. Alors que là, il suffira juste de changer le guide. Alors, on est en train d'améliorer ça. Donc, ça date de quand? Ça date finalement de la découverte fondamentale, mais on va y revenir. La découverte charnière, c'est 2012. Donc, ça fait il y a 5 ans. C'est rien au niveau science, 5 ans. Et depuis, par exemple, cette année, ce qui apparaît, c'est qu'on est, au lieu de laisser la casse 9 couper, parce que malgré tout, dès qu'on coupe, il y a un risque d'abîmer, ils sont en train de modifier, des équipes spécialisées là-dedans, modifier la casse 9 pour qu'elle ne coupe plus, mais au contraire, soit beaucoup plus fine, c'est-à-dire change juste une base. Là où il y avait un C, on va mettre un T. Et donc, ça permet d'imaginer des systèmes où on va pouvoir vraiment réécrire l'ADN comme on veut. Donc, on va bientôt avoir à disposition une panoplie complète, soit si on veut changer un énorme morceau d'ADN, soit si on veut réécrire juste une base et tous les intermédiaires. On va pouvoir vraiment écrire comme on veut, réécrire comme on veut le génome, pour le meilleur et pour le pire. Et juste pour finir l'histoire de CRISPR-Cas9, c'est quand même, c'est aussi, je trouve très emblématique, alors un, de la puissance du système de recherche contemporain, c'est-à-dire que vous voyez, c'est les différentes étapes, avec la découverte d'abord de ces clusters réguliers dans les bactéries dont on ne savait pas du tout à quoi ça servait en 93, et ça c'était alors le 1, il me semblait que c'était dans le sud, oui c'est ça, c'est Alicante, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2012, et je vais y revenir. Alors il y a eu plusieurs étapes, et donc là où c'est intéressant, c'est que c'est plusieurs pays, donc vous voyez que c'est une équipe trouve, puis elle partage avec d'autres qui reprennent cette information. Deux, que à la fin, c'est une découverte fondamentale pour des domaines aussi géants que l'agronomie, l'alimentaire en général, que la santé, que les maladies infectieuses, que plein de choses. Mais au départ, les découvertes initiales, qui étaient essentielles pourtant, n'avaient absolument aucun but appliqué. À Alicante, c'était un chercheur qui étudiait des bactéries dans des flaques d'eau chaude, des sources d'eau chaude. Et il étudiait ces bactéries jusqu'à ce qu'il séquençait l'ADN et finalement il a trouvé ces CRISPR-Cas9. Ok, c'est intéressant, il a écrit un papier, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et hop, il a tourné la page. Et ce n'est qu'après que, alors à un moment donné, je pense que c'est, oui, à d'Angers-Saint-Romain, vous voyez le 3 là, en France, d'Angers-Saint-Romain, en fait c'est une société privée qui fabrique du yaourt. Et, bah oui, il y a un problème, le yaourt c'est des bactéries, et s'il y a des phages, eh ben, c'est la destruction de la production de yaourt, et donc c'est un enjeu important. Et donc là, ils se sont aperçus que la séquence CRISPR, si on la transfère à une bactérie, une souche de bactéries qui n'avait pas ces séquences-là, on transmet l'immunité contre le phage. Et donc c'est là qu'on a, donc c'est dans une société privée française qui fabrique du yaourt qu'on a compris, parce que quand même une recherche de très haut niveau, qu'on a compris que CRISPR participait à l'immunité adaptative des bactéries. Et enfin, c'est où est-ce qu'il a mis 9? Ouais, parce qu'il y a une polémique là-dedans. L'étape clé, c'est soit 9, soit 10. Vous voyez que dans ce papier qui est écrit dans la revue Cell, c'est comme si le point d'orgue, c'était le 10. Mais il y a des gens qui disent que le point d'orgue, c'est le 9. Et ça a été écrit, évidemment, par quelqu'un qui fait partie de Boston, et donc qui a mis en valeur, dans cette revue très prestigieuse, le point 10. Alors, le point 12, qui est le point d'orgue pour certains, c'est deux femmes, Jennifer Doudna, qui est une Américaine, et Emmanuelle Charpentier, qui est une Française, mais qui travaille à l'étranger, qui aujourd'hui est en Allemagne, et qui sont pressenties comme éventuellement nobilisables pour leur travail. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Elles avaient compris, donc suite à tous ces travaux, là, je vais passer hein, de 1 à 8, elles avaient compris le système CRISPR-Cas9 tel que je viens de vous le dire. Mais ce qu'elles ont fait, c'est pour la première fois, elles n'ont pas utilisé ce système pour lutter contre les phages, mais elles ont carrément réécrit un nouveau guide pour montrer qu'en utilisant n'importe quel guide, on pouvait couper l'ADN où on voulait dans le génome. Elles ont vraiment reprogrammé le système CRISPR-Cas9 pour couper l'ADN où elles voulaient dans un génome de bactéries. Donc c'est les premières à avoir utilisé ce système naturel pour en faire un outil technologique capable de faire ce qu'on voulait, mais dans la bactérie. Et 10, c'est utiliser ce même système, cette fois-ci dans les cellules de mammifères. Alors là, il y a une grande polémique, et notamment pour les brevets. Est-ce que ce qui était si ça marchait dans la bactérie, est-ce qu'il était évident que ça marcherait dans les cellules de mammifères? Et donc là, il y a une polémique. Si c'était évident, les brevets qu'ont déposé l'équipe de Boston tombent, parce qu'un brevet doit être innovant, et on ne peut pas breveter quelque chose d'évident. Donc si ce qui marche dans la bactérie marche dans les cellules de mammifères, parce que les gros enjeux, c'est évidemment les cellules de mammifères, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de brevet de Boston. Si c'est innovant, il y a un brevet à Boston. Et les enjeux, c'est des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars. Donc il y a une bataille de brevets considérable entre Berkeley et Boston. Et donc vous voyez que celui qui a écrit ça dans Cell, revue très prestigieuse, est du côté de Boston, puisqu'il a mis le point d'orgue à Boston. Donc alors, et je trouve ça aussi très intéressant parce que c'est un hymne à la recherche non appliquée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la recherche appliquée. C'est que les gouvernements ont tendance à vouloir pointer l'argent sur de la recherche appliquée. Il vous faut une application à court ou moyen terme. Certes, mais en même temps, on voit très bien là qu'il faut absolument une recherche non appliquée, fondamentale, ouverte à tout, parce que c'est de ce terreau-là que soudain surgit quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé. On n'avait pas anticipé le système immunitaire des bactéries, et on n'avait pas anticipé que le système immunitaire des bactéries pouvait servir à réécrire le génome d'un être humain, par exemple. Alors, les applications sont absolument considérables. Aujourd'hui, ils sont d'abord dans les labos de recherche. Ça a complètement changé la façon de faire de la recherche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réécrire le génome de nos cellules dans les labos de recherche. Ça va changer la façon dont on modifie les espèces animales et végétales. Là aussi, alors les OGM, ça va vite être démodé parce que le système CRISPR-Cas9 permet éventuellement de réécrire sans aucune trace. On ne pourra même plus dire ça c'est OGM ou pas, tellement ce sera transparent. On peut même imaginer de créer des espèces qui n'existent pas. Modifier les moustiques pour qu'ils soit transmettent plus de maladies infectieuses, soit carrément disparaissent. Et à chaque fois, je pourrais rajouter pour le meilleur et pour le pire, la thérapie génique, hein, etc. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser ça pour modifier l'espèce humaine? Donc c'est encore une autre question. Mais pour moi, c'est une question quand même fondamentale. Et qui touche au philosophique. Modifier finalement l'ADN d'un enfant à naître. Alors juste deux diapos pour vous rappeler à quoi vous ressembliez il y a un certain nombre d'années. À un ovule et un spermatozoïde, et puis la minute d'après, après fécondation, au zygote, c'est-à-dire l'embryon à une cellule. Puis rapidement, après division cellulaire, un embryon à deux cellules, puis quatre cellules, etc. Et je vous le fais court, 9 mois plus tard, un bébé. Et donc, avec des maladies génétiques, encore une fois, si les deux, soit si un gamète est malade, soit si les deux gamètes sont malades, on peut aboutir, par exemple, à une leucoviscidose, où là, le bébé a hérité de deux allèles complètement mutés et est incapable de faire la protéine CFTR, et donc le poumon est encombré par du mucus trop épais, pas assez de liquide, et donc ça détruit progressivement son poumon. Et donc l'idée, pourquoi ce serait intéressant, c'est que si on modifie, parce qu'on pourrait faire la thérapie génique du poumon, mais à ce moment-là, d'une part, on n'est pas sûr de pouvoir modifier l'ensemble et corriger l'ensemble des cellules du poumon, et pour le moment, on en est là, on n'y arrive pas encore. Hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on veut corriger la mucoviscidose en thérapie génique, et pour le moment, on n'y est pas encore arrivé, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à modifier suffisamment de cellules. Mais, alors que si on modifiait l'embryon dès le début, évidemment, 100% des cellules qui seraient issues de cet embryon qui a été génétiquement modifié seraient normales. Hein, on n'aurait plus ce problème de thérapie génique à faire chez le bébé ou chez l'adulte, puisqu'on aurait tout corrigé en amont. Et en plus, et surtout, les gènes corrigés seraient transmis à toutes les générations suivantes. Hein, on aurait corrigé les allèles défectueux, et cet enfant, lorsqu'il sera grand, toute sa descendance sera normale. Mais il y a des problèmes. Un certain nombre de problèmes, juste pour vous parler des problèmes techniques, le mosaïcisme. Si on essaye de corriger, grâce à CRISPR-Cas9, le zygote, là, au stade où on a une cellule, si la réparation a lieu un peu trop tard, on n'aura qu'une cellule sur deux qui sera réparée, et donc que la moitié du bébé à naître. Donc ça, c'est le problème du mosaïcisme. Et un autre problème, c'est que, je vous ai dit, on a une efficacité de 5%. Alors récemment, il y a eu des papiers qui ont montré, déjà, cette diapo est un peu obsolète, on est monté déjà à plus de 20%. Mais même si on a 20%, on ne sera pas sur 100% des enfants corrigés. Et donc, ça pose le problème de, il faut sélectionner l'embryon qui a été corrigé avant de le réimplanter à la mère. Donc, enfin, on est sur des complications assez techniques. Est-ce qu'on pourra quand même un jour envisager techniquement, hein? Après, c'est une autre question, c'est, est-ce que c'est désirable? Alors oui, parce que, alors vraiment, je vais vous faire court. En fait, plutôt que de modifier l'embryon ici, avec le problème du mosaïcisme, le problème de la... on n'est pas à 100% d'efficacité, on pourrait envisager de modifier les gamètes, donc ovules et spermatozoïdes, ou spermatozoïdes. Et ça, bon, vraiment, pour le faire très court, aujourd'hui, on a une autre révolution qui a été nobélisée déjà, c'est une invention par Shinya Yamanaka, qui a montré qu'à partir d'une simple prise de sang, et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose là aussi très robuste, il suffit de faire une prise de sang à quelqu'un, de prendre ses globules blancs, on peut les reprogrammer en cellules qui ressemblent à des cellules embryonnaires, et de là on peut faire, en tout cas ça marche très bien maintenant chez la souris, et je suis sûr que ça va fonctionner dans les années qui viennent chez l'être humain, en tout cas chez les primates, on peut faire des gamètes. Donc aujourd'hui on peut, chez la souris ça se fait déjà, et chez les primates non humains, les singes, je pense que ça va être fait dans les années à venir. Et peut-être un jour chez l'être humain, on peut, à partir d'une simple prise de sang, faire ou des spermatozoïdes ou des ovules. Et au stade, alors ça, le stade intermédiaire, c'est le reprogrammer, s'appelle les IPS, pour Induced Pluripotent Stem Cells, peu importe. À ce stade-là, on peut très facilement les modifier par CRISPR-Cas9. Et là, l'intérêt, c'est que même si on n'a que 10% d'efficacité, c'est très facile de prendre les cellules qui ont été modifiées, de vérifier que la modification a été parfaitement faite, et après, d'obtenir des gamètes. Donc, ce que je veux dire par cette diapo, c'est que je pressens que techniquement, on va résoudre les problèmes techniques qui permettraient d'envisager d'aboutir à un enfant qui a été génétiquement modifié en amont. Donc, plutôt que la réparation à ce stade-là, moi je crois plutôt à la stade IPS, c'est-à-dire après la prise de sang. Mais donc, ce sera faisable un jour. Techniquement, ce sera faisable. C'est ça le point sur lequel j'insiste. Alors, ça pourrait nous servir à quoi? Alors déjà, ça permettrait de corriger les infertilités de cause génétique. Parce que c'est sûr que si quelqu'un est infertile d'un point de vue génétique, on ne peut pas faire de la fécondation in vitro, on ne peut plus l'aider. Hein, s'il est infertile d'un point de vue génétique, on ne peut pas l'aider. Avec ça, on pourrait imaginer de faire une prise de sang chez ce patient, que ce soit une femme ou un homme, infertile, de faire des IPS, de corriger ses IPS, d'avoir des gamètes cette fois-ci corrigés, et qu'il ait une descendance. C'est une question... Après, c'est une autre question de savoir si c'est désirable ou pas. Mais techniquement, voilà à quoi ça pourrait servir. On peut aussi imaginer de corriger des maladies génétiques graves, hein, éviter la mucoviscidose. Mais ça, aujourd'hui, on a encore le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de... S'il y a eu la naissance d'un enfant atteint dans une famille, pour éviter qu'un autre enfant soit atteint, on peut faire une fécondation in vitro, obtenir une dizaine d'embryons, faire un test génétique sur chacun de ces embryons, à des stades très précoces, hein, au troisième, quatrième jour, déterminer les embryons qui sont normaux, en tout cas pas atteints de mucoviscidose, avec les deux ailes cassées, et ne réimplanter à la mère que les embryons indemnes de la maladie. C'est le diagnostic préimplantatoire. Oui, mais il y a des cas un peu extrêmes, je vous l'accorde. Par exemple, un couple de patients atteints de mucoviscidose. Vous allez me dire, c'est un peu extrême, parce que la mucoviscidose, c'est une des maladies génétiques les plus fréquentes, mais c'est pas si fréquent que ça. Mais, à mon avis, c'est pas si rare que ça, parce qu'évidemment, si vous êtes très malade, vous êtes dans des groupes de patients comme vous, et donc vous allez plus facilement rencontrer quelqu'un qui est atteint de la même maladie que vous. Et donc, imaginez un couple qui est atteint de mucoviscidose, ben, on ne peut pas faire de DPI, hein, parce que tous les gamètes sont complètement malades, et donc 100% des embryons seront porteurs de la mucoviscidose. Donc, ceux-là, soit on leur explique gentiment qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, qu'ils adoptent. Alors, parce que la mucoviscidose, dans les années 50, on mourait avant l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, la survie a dépassé les 40 ans. Donc après, c'est une autre question, est-ce que c'est désirable qu'ils aient des enfants, etc. Mais, donc voilà, une situation assez exceptionnelle, mais où finalement, ce que je viens de vous dire, pourrait permettre à ces couples-là d'avoir leur propre enfant.
Mais là, on parle de mucoviscidose parce qu'elle est monogénique. Les polygéniques, qui sont la majorité, les maladies polygéniques, comment on les
appréhende ? Oui, bah, on peut imaginer la même chose. Hein. C'est-à-dire, si on a identifié les causes génétiques, bah, à ce moment-là, on corrige. Alors, si c'est deux, bah, on corrige deux. Mais aujourd'hui, on connaît encore très peu de choses, hein, sur les maladies polygénétiques parce que c'est tellement compliqué qu'on a beaucoup de mal à les mettre en évidence. Mais à partir du moment où on sait la cause, vu qu'on a un système pour réécrire l'ADN, on réécrirait l'ADN. Mais au-delà, et c'est là où je veux revenir, à quoi ça pourrait nous servir ? Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre application ? Ouais. Eh ben, par exemple, on est tous porteurs de mutations. Alors là, j'ai mis des mutations, par exemple, un facteur de risque de faire un cancer du sein. Mais on a la même chose pour des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, des facteurs de risque pour du diabète. Quasiment toutes les maladies, maintenant, on arrive à mettre en évidence les facteurs de risque. C'est pas que c'est un gène, une maladie monogénique, comme ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, vous avez la mutation, vous avez la maladie, non. C'est un risque accru. Eh bien, on a tous envie de ne pas transmettre ça, si jamais on en est porteur, à sa descendance. Parce que, forcément, si on est porteur de ces facteurs de risque, et quelque part on est tous porteurs de au moins un facteur de risque de quelque chose, quelque part dans notre descendance, il y aura des maladies génétiques qui vont s'exprimer. Et par exemple, on est peut-être porteur l'allèle de la mucoviscidose, je crois que c'est une personne sur 60 qui est porteur d'un allèle, ce qui est normal, hein, 1 sur 60. Mais oui, mais un allèle muté, hein, c'est de ce temps-là. Non, c'est
le plus
fréquent, enfin, c'est l'ordre de grandeur.
Il y a un patient sur 2000 personnes, hein, la mucoviscidose est à la limite de la définition de maladie rare. Donc pour avoir un sur 2000 qui a la maladie, ça veut dire que c'est un porteur.
Oui, il y a beaucoup de porteurs.
C'est
qu'un. Oui, alors, il faut que je révise. Oui. Bon, en tout cas, l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est vraiment pas rare quoi, d'être porteur de l'allèle. Mais on est normal parce qu'on a un allèle normal en face. Et donc, si on est porteur de l'allèle, ben forcément, quelque part dans notre descendance, il y aura une coïncidence. Donc, on a ce désir quand même, ben, si c'était possible, de gommer cette imperfection et de transmettre un patrimoine génétique dépourvu de cette imperfection. Après, il y a des traits physiques, nanisme, ça peut être, par exemple, cette femme, elle a une mutation dans des tissus, enfin, dans des protéines qui codent pour les tissus mous, et donc qui est un peu déformée, elle vit, mais c'est quand même un handicap. Donc on n'est pas sur quelque chose qui engage le pronostic vital, mais c'est quand même lourd à porter. Et donc je suis sûr que si elle pouvait, alors elle, peut-être qu'elle aurait souhaité avoir la petite correction si c'était possible avant, et à fortiori pour ses enfants si c'était possible.
Est-ce qu'on peut mettre les nains là-dedans ?
Oui, alors les nains, il y a vraiment... Oui, parce qu'il y a des maladies, le nanisme, il y a vraiment des maladies génétiques, monogéniques bien identifiées de nanisme. Moi, je le vois comme étant quand même plutôt perçu comme un handicap.
Oui, non, mais je veux dire, les nains, on peut aussi...
Alors après, attention, il y a des nanismes vraiment monogéniques, on sait, c'est une mutation, bien, et là, ce serait assez facile à réparer. Après, il y a des petites tailles qui sont pas forcément... Aujourd'hui, on ne connaît pas les gènes qui codent pour la taille. Mais c'est des choses qui vont venir. Je pense qu'à un moment donné, on pourra lire... Pour le moment, on ne sait pas encore très bien le faire. On pourra lire dans notre génome la taille qu'on aura à l'âge adulte, à peu près. Ça dépend de ce qu'on mange, hein, bien sûr, mais à peu près. Pour le moment, on n'est pas encore capable. Donc, les nanismes, aujourd'hui, on pourrait théoriquement déjà les corriger. Des petites tailles qui ne sont pas des nanismes vrais, pas encore.
Et excusez-moi, est-ce que ça se fait actuellement ?
Non, en thérapie génique, non, parce que... Et non, et donc, tout ce que je vous ai dit là, ça ne se fait pas du tout encore. On est encore loin techniquement d'autoriser les modifications de notre génome humain. Déjà parce que ça pose des problèmes techniques. Il faut être sûr quand même que l'enfant à naître soit indemne d'effets secondaires. Et ça, c'est pas donné. Et puis après, il y a aussi le problème éthique de la porte qu'on ouvre. On va finir par ouvrir la porte jusqu'au bout et après, on verra si on la referme ou pas. Après, l'étape d'après, ce serait, est-ce que la tendance, hein, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'avoir un enfant parfait ? Donc choisir sur catalogue sa force, sa taille, son quotient intellectuel, durée de vie. Hein, si demain on trouvait un gène qui donne 20 ans de plus, est-ce qu'on aurait envie ou pas de le transmettre à, nous, on a une vie, 85 ans, 90 ans, et on surcatalogue, si vous payez 5000 euros, on rajoute 20 ans à votre enfant. Oui, non, vous ne cochez pas. Voilà la question qui se poseront peut-être un jour. Alors aujourd'hui, je vous rassure, on ne connaît pas les gènes qui codent pour la taille, pour la force, pour le QI, pour la durée de vie. Donc c'est simple, techniquement, on n'y est pas du tout. Mais je suis assez confiant qu'on va trouver, ouais, on arrivera à lire dans l'ADN ce qui code pour tout ça. Et donc, bon, après la question c'est, bon, peut-être qu'on ferme la porte, surtout qu'il y a encore des choses encore pires derrière, mais est-ce que vraiment c'est éthique de complètement fermer la porte ? Imaginez vraiment que d'un point de vue technique, on est tout résolu et qu'il n'y a aucun risque pour l'enfant à naître. Que la seule restriction, ce soit le côté... Est-ce que c'est vraiment éthique de le faire ? Et donc, on peut inverser. Est-ce que c'est éthique de dire à quelqu'un qui est infertile génétiquement, non, tu n'auras pas d'enfant parce que si on le faisait pour toi, ça ouvrirait la porte à des abus. C'est difficile. Hein ou pour un couple atteint du covicidose, non, on vous interdit d'avoir des enfants, même si techniquement on pouvait le faire, parce qu'il y aurait des conséquences difficilement envisageables. Et même, est-ce que c'est vraiment tenable hein ? Parce que je pense que c'est un souhait profond de transmettre le meilleur pour nos enfants.
Et finalement, si on corrige plein de choses dans notre génome, si on change plein de morceaux, pourquoi ne pas finalement prendre les spermatozoïdes de quelqu'un d'autre ?
Ah non, c'est pas pareil. Hein. Je pense qu'on est vraiment programmé pour favoriser son propre génome. Hein. Non, là on est. Mais non, mais c'est une bonne question. Hein. Bon, après, ça c'est juste pour illustrer les puissances qui sont derrière. Calico, c'est une spin-off de Google. Et vraiment, eux, c'est voir le vieillissement comme une maladie. Donc il y a beaucoup de recherches pour trouver des médicaments. Et là aussi, ça pourrait mériter, c'est pas mon domaine, mais ça pourrait mériter quand même une intervention. Il y a aujourd'hui des médicaments qui s'appellent les sénolytiques, qui vont tuer les cellules sénescentes. Et bientôt, les essais cliniques vont commencer. Hein. Donc ça, c'est encore une autre question, hein, beaucoup, finalement à plus court terme. Hein. Est-ce que une petite pilule qui rajeunit, ou en tout cas qui ralentit le vieillissement, est souhaitable ou pas? Et donc, voilà, il y a vraiment des sociétés qui ont vu comme le vieillissement comme une maladie. Et donc, si jamais, d'un point de vue génétique, on pouvait corriger le vieillissement, la tentation serait grande, y compris par ces gens très puissants hein, derrière ce genre de société.
Est-ce que tout ce qui peut se faire se fera de toute façon, bien sûr.
Ah, oui, bien sûr.
Il y aura toujours quelqu'un dans... Si techniquement c'est possible, il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va vous...
On est assez d'accord.
C'est la discussion après.
Ouais. Et donc... Donc après, on arrive vraiment sur la notion d'humain augmenté. Humain augmenté, les possibilités sont infinies. Hein. La force QI, la durée de vie. Et imaginez un dictateur qui s'empare de la technologie et qui produit des soldats qui sont plus forts, plus intelligents, et qui ont moins de peur et qui obéissent parfaitement.
Hein?
Bon, peut-être que les robots seront plus efficaces. Hein. C'est intelligence artificielle. Après, encore... Je suis à trois diapos de la fin. Le gene drive ou forçage génique, c'est une application de CRISPR-Cas9. Donc là, au départ, ça s'applique aux moustiques, mais justement, moi, mon propos, c'est que ça pourrait aussi s'appliquer à l'être humain. L'idée, c'est que le principe, pourquoi est-ce que les gens sont motivés pour modifier les moustiques, c'est parce qu'ils transmettent des maladies qui peuvent être mortelles. Le paludisme, ça tue encore des centaines de milliers d'enfants par an. Alors, on est peut-être plus sur des millions, mais enfin, ça tue encore beaucoup d'enfants par an, et des adultes aussi. Hein. Et donc, si on pouvait soit modifier les moustiques pour qu'ils transmettent plus le paludisme, soit pour éradiquer une espèce de moustique, par exemple, l'anophèle transmet le paludisme, si on éradiquait l'anophèle, il n'y aurait plus de paludisme. Après, il y a d'autres problèmes, notamment écologiques, mais bon. Et donc, la transmission normale d'un gène, imaginons qu'on ait trouvé le gène qui empêche le paludisme d'être transmis, que ce soit ce gène rouge, la transmission normale fait que de deux parents, vous avez statistiquement un enfant sur deux, etc. Et donc finalement, avec l'apport des autres moustiques qui n'ont pas le gène reste toujours minoritaire. Le gene drive, c'est un dérivé du CRISPR-Cas9, où tout simplement, on a rajouté au gène d'intérêt, le gène rouge, une cassette qui va faire que lorsque se crée le futur moustique, l'allèle rouge soit copié à la place de l'allèle blanc. C'est-à-dire qu'il y a l'allèle qu'on souhaite répandre dans la population soit capable de venir se mettre à la place de l'allèle sauvage. Et avec CRISPR-Cas9, on peut faire. C'est-à-dire que dans la cassette, vous avez un RNA guide, l'enzyme Cas9 et le gène qu'on veut qu'il soit transmis. Et donc à chaque fois, une construction un petit peu compliquée, mais à chaque fois donc, qu'il y a un allèle, il va se copier sur l'autre. Et ça donne ceci. Vous allez avoir, il suffit que vous ayez un moustique qui est modifié, toute sa descendance sera rouge. Il va s'accoupler avec un moustique qui est sauvage, mais tous les enfants seront rouges, qui s'accouplent avec des moustiques sauvages, et à la fin, en quelques générations, donc au niveau de l'espèce humaine, oui, parce que si on prend en compte qu'on est 7 milliards, environ 14 générations, tout le monde a été modifié. Donc c'est entre 14 et 20. Donc ça va très vite. Donc le système de forçage génétique, grâce au système CRISPR ou à cause de CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui permettrait d'imaginer aussi du bioterrorisme. Alors qu'on ne sait pas qu'on est porteur d'une cassette qui pourrait s'activer si on mange quelque chose ou que sais-je. Voilà, donc, la modification du génome humain était avant, depuis les années 70 finalement, on s'inquiète de ça, mais avant, on n'avait pas les technologies pour le faire. Et donc, c'était un concept. Donc, par exemple, il y a eu la convention d'Oviedo, je suis passé un peu vite, la convention d'Oviedo interdit de modifier le génome humain. On l'a écrit, tous les pays n'ont pas signé, hein. L'Angleterre n'a pas signé, les États-Unis n'ont pas signé, etc. C'est européen. Mais, voilà. Mais là, avec CRISPR-Cas9, ça devient quelque chose de très concret. Ma prédiction, c'est que dans les 5 ans, peut-être je me trompe que c'est dans les 10 ans, des singes génétiquement modifiés par ce que je vous ai dit sont faits. Alors, on a déjà eu des singes qui sont modifiés par injection dans le zygote, mais moi j'attends surtout avec l'histoire des IPS, c'est-à-dire vraiment la modification parfaite. Je pense que dans les 5 à 10 ans, ce sera fait chez le singe. Et donc la question, c'est après. Et donc, juste pour finir, à la question de tout ce qui est faisable sera fait un jour. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que qu'est-ce qu'on est? Donc ça c'est l'arbre de vie. On est quoi, nous, être humain? Alors il y a plusieurs façons de se voir. On peut se voir comme une personne de l'espèce humaine, etc. Bon, c'est la vision qu'on a. On peut se voir d'un point de vue biochimique. On est une grosse réaction chimique. C'est pas faux, hein. Un grand fermentateur, on peut aussi dire ça. D'un point de vue génétique, on peut dire on est une copie d'ADN qui a un système très complexe autour, c'est nous, capable de copier cette information. C'est une autre façon de nous voir, mais en réalité, c'est sans doute la vue la plus objective. C'est-à-dire qu'on est une information génétique de l'ADN avec un système très sophistiqué de copiage. Cette force que nous avons de nous reproduire, d'avoir des enfants qui eux-mêmes auront des enfants et qui explique que l'espèce humaine, on en parlait tout à l'heure, est envahie assez rapidement la planète entière. Et donc là, avec CRISPR-Cas9, on est à une révolution d'un point de vue justement sur ce concept. On est une espèce vivante comme les autres, hein, un morceau d'ADN qui se duplique. On est vraiment un point, peut-être de non-retour, puisque l'être humain que je vais entourer en rouge ici, pour la première fois, peut-être, est-ce qu'il le fera ou pas, va être capable de se modifier lui-même. Donc l'ADN qui se copie là, de manière très sophistique, pour la première fois, il va pouvoir se modifier lui-même de la façon dont il veut. Quelque part, il pourra se modifier de façon à être plus performant dans le copiage, soit avoir plus de descendants, soit éradiquer les concurrents. En tout cas, pour la première fois, il va pouvoir se modifier lui-même. Et à partir de là, on ne sait pas trop vers où on va aller, et notamment dans la mesure où... Parce que c'est quoi Darwin ? Darwin, c'est juste c'est la loi du plus fort, c'est pas le plus fort, c'est juste que à la fin, celui qui survit, le molécule d'ADN qui survit, c'est celle qui était la plus proliférative, qui est la plus solide, qui c'est le plus... Et donc, je vois pas trop pourquoi, à la fin, si on a la technologie CRISPR-Cas9, quelque part, effectivement, il n'y a pas quelques êtres humains qui l'utiliseront. Et à ce moment-là, le risque, c'est qu'ils prennent le dessus sur ceux qui ne l'utilisent pas.
C'est l'homo
deus. Oui. Oui, alors je suis au milieu du livre, moi j'adore ce livre, mais je n'ai pas encore lu la fin. Donc. Mais oui, je pense que c'est la conclusion logique. Hein.
Spoiler. Raconte
pas
la fin.
Spoiler. Ben voilà.
C'est bon ?
Oui.